sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Le 17 novembre 2010, sous la coupole de l'Institut de France, s'est déroulée la séance publique annuelle de l'Académie des Beaux-Arts. Canal Académie vous propose d'entendre des extraits de cette séance solennelle, au cours de laquelle vous entendrez successivement Roger Taillibert, président, pour son discours d'hommage aux disparus, puis Laurent Petit-Gérard, le vice-président, présentera les morceaux de musique qui ont été joués ce jour-là sous la coupole. Canal Académie vous présente donc un court extrait de « Miroir » de Maurice Ravel, choisi par le compositeur. Puis, abandonnant sa baguette de chef d'orchestre, Laurent Petit-Gérard a proclamé les récompenses, s'interrompant à nouveau pour permettre au public d'écouter trois chants interprétés par le Chœur Britaine dirigé par Nicole Corti. Le Chœur Britaine est le lauréat du prix Liliane Bettencourt-Schuller pour le chant choral, l'un des plus importants d'Europe. Canal Académie vous propose donc d'écouter le premier morceau, L'Ave Maria de Gustav Holst. La fin de la proclamation du palmarès a été suivie par le scherzo de la première symphonie de Dutilleux par l'orchestre Colonne sous la direction de Laurent Petit-Gérard. Après ce bref extrait musical, vous pourrez entendre le discours du secrétaire perpétuel Arnaud Dautrive, cette année consacrée à l'onirisme dans la peinture. Pour point final, le public a pu entendre, comme chaque année, la fanfare de la Pairie de Paul Dukas.
Monsieur le ministre représentant de Monsieur l'ambassadeur du Japon, Monsieur le chancelier de l'Institut de France, Messieurs le secrétaire perpétuel, chers confrères, Mesdames, Messieurs, au nom de tous mes confrères de l'Académie des Beaux-Arts, je vous remercie pour votre présence sous cette coupole à l'occasion de notre séance publique annuelle. L'usage veut que chaque année, au moment d'ouvrir cette séance, le président salue la mémoire de ses confrères disparus au cours de l'année écoulée. Et c'est avec émotion que je me tourne ici vers l'épouse de M. Leonardo Cremonini, membre associé étranger de notre Académie, décédé le 12 avril 2010. Né le 26 novembre 1925 à Bologne, où sa rencontre avec Morandi s'avérera déterminante, Leonardo Cremonini s'installe à Paris en 1951, auteur d'une œuvre onirique protéiforme, excellent à exprimer aussi bien la violence de son siècle que la douceur immuable des paysages maritimes évocatrices de son enfance calabraise. Cremonini fut à la fois, ce qui est extrêmement rare, partisan absolu de la peinture dans son sens le plus classique et ouvert aux interrogations les plus intellectuelles de son temps. Son œuvre fut d'ailleurs l'objet d'études de très nombreux critiques, philosophes, écrivains. Nommé chef d'atelier à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts en 1983, il défendra pendant 20 ans, à contre-courant, des esthétiques dominantes alors, sa conception d'une peinture éminemment composée. J'achève cette trop courte évocation en citant une de ses pensées particulièrement révélatrices, me semble-t-il, de son rapport à la création. Aujourd'hui, je crois que la peinture doit éviter de faire du bruit, car seul le doute est dynamique. À la mémoire de ce confrère disparu, je vous propose d'observer une minute de silence. Je vous remercie et vous propose de prolonger ce moment de recueillement en écoutant Alborada del Gracioso, extrait des Miroirs de Maurice Ravel, dans l'orchestration du compositeur interprété par l'Orchestre Colonne, dirigé par notre confrère Laurent Petit-Gérard.
Bien, Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup. Mesdames et Messieurs, ainsi qu'on peut s'en réjouir, la liste de nos disparus ne comportait qu'un seul nom, celui de notre cher ami peintre. Et cette liste très brève a heureusement nous fait plaisir dans le sens que nous n'avons pas regretté plus d'un de nos chers amis et chers confrères, mais elle pose évidemment un problème à la régie de mon orchestre, car vous imaginez bien qu'installer, une fois le passage des académiciens, passer un orchestre symphonique complet pose certains problèmes. Je vais en profiter pour vous dire deux ou trois mots sur cette œuvre que nous allons vous jouer, sur les deux œuvres. L'Alborada del Gracioso, qui fait partie des Miroirs, et fait partie de ces œuvres que Ravel a orchestrées, comme par exemple La barque sur l'océan ou Le tombeau de Couperin. L'orchestration de Ravel, d'abord on la connaît, elle est surtout dans ces œuvres-là, ou comme dans la valse, luxuriante, comprend deux harpes, comprend évidemment ce qu'on appelle les bois par trois, et c'est un orchestre important. Pour ne rien vous cacher, l'espace qui nous est réservé sous la coupole ne nous permet pas d'avoir les cordes de l'orchestre colonne au complet, telles que nous les aurons samedi prochain à la salle Pleyel lorsque nous allons jouer cette œuvre, parce que bien évidemment, il y a un problème d'exiguïté. Également, évidemment, se pose le problème de la résonance, mais on s'aperçoit que l'acoustique de cette salle est très agréable. Ce qui est spécifique dans cette orchestration, évidemment, c'est que l'Alborada del Gracioso comporte au piano un certain nombre de notes répétées, extrêmement rapides, et que Ravel les a notamment passées aux trompettes et aux cors, ce qui sous-entend une dextérité d'articulation, mais qui oblige également les chefs d'orchestre à prendre un tempo légèrement plus mesuré que celui que pourraient prendre les pianistes. C'est une œuvre dans laquelle il y a un solo de basson extrêmement important, et je me réjouis que nous ayons à l'orchestre colonne du basson français, qui reste un instrument absolument idéal. J'aime beaucoup le fagot, l'instrument allemand, mais l'instrument français pour jouer cette musique est évidemment l'instrument privilégié. La deuxième œuvre que nous jouerons tout à l'heure, c'est le deuxième mouvement de la première symphonie d'Henri Dutilleux, notre cher Henri Dutilleux, qui va bientôt, dans quelques mois, fêter ses 95 ans, qui continue à composer, ce qui est rassurant pour tous les compositeurs présents, de aussi bien membres de l'Académie que les autres, dont la force créatrice est intacte. Et vous verrez que cette symphonie est d'une jeunesse absolument incroyable. Le scherzo est un mouvement de virtuosité absolue qui, évidemment, met à l'épreuve l'ensemble des pupitres. C'est une œuvre... Oui, il faut toujours se battre un peu avec Henri Dutilleux, qui la considère comme une œuvre de jeunesse. Je pense que c'est simplement un chef-d'œuvre qui fait partie des trésors du patrimoine de la musique contemporaine française. Alors, je vois que l'orchestre est à peu près en place. Je vais leur demander de s'accorder, ce qui se fait. Et juste après, nous vous jouerons donc l'Alborada del Gracioso.
La parole est à présent Monsieur Laurent Petit-Girard, qui va procéder à la proclamation du palmarès 2010 de l'Académie des Beaux-Arts.
Cette séance publique annuelle de l'Académie des Beaux-Arts est un jour de fête pour notre compagnie et ses membres, mais également pour la création et les arts que nous célébrons aujourd'hui à travers les artistes de toutes disciplines ici présents. Avant de procéder à la lecture du palmarès et à la distribution des nombreux prix décernés cette année, je souhaite saluer les donateurs d'hier et d'aujourd'hui qui nous permettent de distribuer chaque année ces nombreuses distinctions et de perpétuer ainsi notre action de soutien en faveur de la création. Je pense particulièrement à ceux qui sont présents sous cette coupole, M. Pierre Cardin, nos confrères Michel-David Veil, Marc Ladré de la Charrière, Léonard Gianada, Mme Liliane Bettencourt, représentée aujourd'hui par la direction de la Fondation Bettencourt-Schuller, Mme Nae Odier, correspondante de notre académie, M. Jean-Pierre Grivory, Mme Maria Pilar de la Bérodière. Notre gratitude se porte également vers nos chers disparus, Mme Simone Del Duca, qui fut correspondante de notre académie et dont la générosité nous permet de distribuer chaque année, par l'intermédiaire de l'Institut de France, 3 grands prix ainsi que des récompenses importantes. Mais aussi Mme Simone Lursa, récemment disparue et dont l'action se perpétuera à travers le grand prix de bibliophilie Jean Lursa qu'elle a souhaité créer, ainsi que la future fondation Jean Lursa. Grâce à tous ces mécènes d'hier et aujourd'hui, notre compagnie peut continuer de protéger et d'épanouir les expressions artistiques et la vie de l'esprit, qu'ils en soient vivement remerciés. Dans quelques instants, plus de 40 prix vont être remis, représentant un total de plus de 450 000 euros, montant auquel il faut ajouter plus de 500 000 euros d'aide et encouragement que l'Académie distribue annuellement aux artistes en grande difficulté. Vous allez le constater, certains des prix distribués couronnent des artistes accomplis, déjà largement reconnus. Mais la majorité des prix décernés par l'Académie des Beaux-Arts sont des prix d'encouragement, qui aident de jeunes artistes au seuil de leur carrière en leur procurant une reconnaissance institutionnelle indéniable, ainsi qu'un apport financier parfois substantiel. Je vais à présent procéder à la proclamation du palmarès 2010 de l'Académie des Beaux-Arts. J'invite les personnes dont le nom sera cité à se lever et à venir chercher leur prix à la tribune. Nous commençons par les 5 prix de la Fondation Simone et Tino Del Duca, prix de l'Institut de France, attribué sur proposition de l'Académie des Beaux-Arts. Le prix de peinture a été décerné à M. Jean Le Gac. Le prix de sculpture a été décerné à M. Gérard Koch. Le prix de composition musicale a été décerné à M. Thierry Pécou. Les prix de musique ont été partagés entre Mademoiselle Magali Léger, Mademoiselle Hélène Schmitt, M. Bertrand Chamaillou et M. Gilles Dureau. Voilà. Vous me pardonnerez d'embrasser les demoiselles, mais j'ai eu le bonheur de les diriger toutes les deux. Grand prix d'architecture de l'Académie des Beaux-Arts. Le premier prix, prix Charles Abella, a été décerné à Mademoiselle Marine Mirou. Le deuxième prix, prix André Arvidsson, a été décerné à M. Nathanaël de Rampe. Le troisième prix, prix Paul Arvidsson, a été décerné à Mademoiselle Catherine Marette, qui est absente aujourd'hui, et une mention a été décernée à M. Thomas Etès. Nous en arrivons au prix Liliane Bettencourt pour le chant choral, qui a été décerné au chœur Britton, dirigé par Nicole Corti. Les 5 prix Pierre Cardin ont été décernés par les différentes sections de notre académie. Le prix de peinture a été décerné à M. Arthur Ayot. Le prix de sculpture a été décerné à M. Tamim Sabri. Le prix d'architecture a été décerné à M. Éric Cassard. Le prix de gravure a été décerné à Mademoiselle Marianne Seyedine. Le prix de composition musicale a été décerné à M. Andrei Adamek. Le prix François-Victor Nourry, prix de l'Institut, attribué sur proposition de l'Académie des Beaux-Arts, a été attribué à M. Mathieu Amalric.
Le prix de photographie de l'Académie des Beaux-Arts Marc Ladré de la Charrière a été attribué à Mademoiselle Marion Poussier. Le prix du Cercle Monterland, Académie des Beaux-Arts, couronnant un ouvrage consacré à l'art, a été attribué à Madame Françoise Boudon et Claude Mignot pour leur ouvrage « Jacques Androuet du Cerceau, les dessins des plus excellents bâtiments de France » publié aux éditions Le Passage. Le prix Maria Pilar de la Béraudière, en souvenir de Paul-Louis Veller, prix de sculpture, a été attribué à M. Jean Rouland, qui, vous prie de l'excuser, est en souffrant. Mais on peut l'applaudir car c'est un grand artiste. Le prix Georges Coulomb, prix de sculpture, a été décerné à Mademoiselle Clarisse Griffon du Bellay. Le prix Nahed Odje, prix de gravure, a été attribué à M. Yves Doharé. Le prix Achille Food Stirbet, prix de peinture. Le premier prix a été décerné à M. Alain Arnaud. Le deuxième prix a été décerné à M. Yasufumi Kurakazu. Le troisième prix a été décerné à M. Zilong Liang. Le prix Jean Lursa, couronnant un ouvrage de bibliophilie, a été attribué à M. Louise Mison et Alexandre Holland pour l'ouvrage « La soudeur de murmures » publié aux éditions Écart. Le prix Françoise Abella, prix d'architecture, est partagé entre Mademoiselle Alice Audebert et Mademoiselle Lucinda Grueff. Je comprends pourquoi mes confrères aiment bien la vice-présidence, parce que voir autant de sourires et remettre autant de prix, c'est finalement très agréable. Le prix Bernier, prix d'ouvrage, a été attribué à M. Omar Calabrese pour son ouvrage « L'art du trompe-l'œil » publié aux éditions Citadelle et Masno. Le prix Nadia et Lily Boulanger, prix de musique, est partagé entre M. Philippe Leroux et Jean-Frédéric Neuberger. M. Leroux est au Canada et M. Neuberger est en concert. C'est souvent le destin des musiciens. Le Grand Prix d'orgue Jean-Louis Florence de l'Académie des Beaux-Arts, attribué dans le cadre du Printemps des orgues du Maine-et-Loire, a été décerné à Mademoiselle Maiko Kato. Le prix René Duménil, prix d'ouvrage, a été attribué à l'ouvrage collectif réalisé sous la direction de M. Pascal Huyn, « Lénine, Staline et la musique » publié aux éditions Fayard. Le prix Danian Bouvray, prix de peinture, a été décerné à M. Raphaël Diaz-Recalde, qui est actuellement en Espagne et nous prie de l'excuser. Le prix Colmont, prix de gravure, a été décerné à Mademoiselle Isabelle de Fonréau. Le prix Paul-Louis Veller, le prix de gravure, a été décerné à Mademoiselle Angelica Caporasso, qui n'est pas avec nous ce soir, et le prix de composition musicale a été décerné à M. Christophe Bertrand. Les prix Georges Wildenstein sont décernés aux pensionnaires artistes boursiers de l'État ayant achevé leur séjour à la Casa Velázquez en 2010. Il s'agit de Mesdames Aurélia Frey, Muriel Moreau, Anne-Catherine Neza et de M. Andrzej Adamek, Yves Choris, Gilles Couillet-Margaritis, dit Quiberon, Pascal Laborde et Joseph Seroussi. Alors, nous allons maintenant interrompre provisoirement la lecture de ce palmarès pour écouter le lauréat 2010 du prix Liliane Bettencourt pour le chant choral, le chœur Britaine, sous la direction de Mme Nicole Corti.
Thank you.
Les lauréats des prix suivants, ne se levant pas pour venir chercher leur diplôme qui leur sera envoyé ultérieurement, je vous demanderai de bien vouloir réserver vos applaudissements pour la fin du palmarès. Prix Antoine-Nicolas Bailly d'architecture, décerné à Tom Sheehan. Prix Claude Berthaud de sculpture, décerné à Fabienne Tissier-Monod. Prix Adolphe Beaufaux, attribué à Mehdi Cotby pour l'ouvrage Écrit et Esprit aux éditions du Chêne. Prix Bréauté de peinture, décerné à Patrice Huguier. Prix Brizard de peinture, décerné à Olivier Terral. Prix Catenacci, attribué à Bernard Fournier, en collaboration avec Roselyne Cassa-Prisenthal pour l'ouvrage « L'histoire du quatuor à cordes de l'entre-deux-guerres au XXIe siècle » aux éditions Fayard. Prix Maxime David de peinture, décerné à Wang Xin. Prix Dumas Millet de peinture, décerné à Simon Blot. Prix Houlévig, attribué à Jean-Michel Léniaud pour l'ouvrage « L'art nouveau » aux éditions Citadel et Masneau. Prix Leguet-Lebrun de sculpture, décerné à Adeline Alichon. Prix Paul Marmetan, attribué à Serge Linares pour l'ouvrage « Écrivain-artiste, la tentation plastique, 18e-21e siècle » aux éditions Citadel et Masneau. Prix Meurant de peinture, décerné à Tamiya Manabou. Prix Alphonse de Neuville et Sandford Saltus de peinture, décerné à Futai Nagana. Prix Maurice R.D. de peinture, décerné à Sreko Boban. Prix Verdaguer de peinture, décerné à Emmanuel Perra. Prix Frédéric et Jean de Vernon, prix de gravure, décerné à Marc Gassier Artuste. Enfin, des prix d'encouragement ont été accordés aux artistes suivants. En peinture, à Alexandre Hollande. En sculpture, à Sophie Restino. En gravure, à Renaud Alirand et Marc Pérez. En architecture, à Thomas Etès et Bing Yang. En composition musicale, à Nicolas Mondon et Vincent Trollet. La lecture de ce palmarès est maintenant terminée. Je vous propose à présent d'entendre le scherzo de la première symphonie d'Henri Dutilleux, interprété par l'orchestre Colonne.
Thank you.
La parole est à présent à M. Arnaud Dautrive, secrétaire perpétuel.
Monsieur le ministre, représentant de M. l'ambassadeur du Japon, M. le chancelier de l'Institut de France, messieurs les secrétaires perpétuels, chers confrères, mesdames, messieurs. L'onirisme dans la peinture. Le mythe grec nous apprend que le mystère du rêve est une projection essentiellement visuelle des perceptions et des émotions éprouvées au cours du sommeil. Morphée, fils d'Hypnos et de Nyx, aux ailes silencieuses et légères, a en effet le don des métamorphoses infinies, et c'est sous une apparence formelle qu'il se révèle aux dormeurs. Le rêve est donc d'abord une figure, à dessiner plutôt qu'à dire. La peinture est, comme le dit aussi Léonard de Vinci, l'hypotypose même, une poésie qui se voit et met devant les yeux ce que le langage ne peut que nommer. Gauguin ajoute que pour apprivoiser la richesse mystérieuse de l'inspiration, l'artiste doit plonger dans l'inconnu du songe. Les peintres ont représenté avec constance et fascination ce moment qui préside à leur art sous les traits de figures endormies. Je pense à la Bacchante s'abandonnant au mystère sur une fresque de Pompéi et à la jeune fille au pavot rouge de Balthus. Je pense aux yeux clos des sujets de Modigliani, de Redon ou de Matisse fermant leurs paupières d'ivoire sur les énigmes fécondes de cette seconde vie. Je pense à la troublante Danaé de Klimt et à l'énigmatique bohémienne du douanier Rousseau, qui, dans un halo de lune ou d'or, font prendre forme à la poésie involontaire du rêve. Comme le souligne Gauguin, seule la peinture, force persuasive et émotive, permet de représenter le paysage intérieur du rêveur en restituant l'exacte sensation et l'authentique teinte du sentiment grâce à la couleur et à la nuance. L'autoportrait, tête aux nimbes de Chagall, traversé de visions colorées, d'air bleu et d'amour, est l'étonnante et talentueuse illustration de cet accord profond de la peinture et du rêve, thème que je me propose de développer aujourd'hui. Dans l'Antiquité, les songes ne sont pas compris comme des manifestations du psychisme humain, mais comme des messages venus de l'extérieur, du monde invisible, des dieux. Considérés comme des augures ou des avertissements, les songes affirment la dimension sacrée du rêveur, comme nous le découvrons avec l'emblématique Sibylle de Delphes de Michel-Ange. Les références aux songes et aux visions prophétiques, instruments privilégiés du divin pour communiquer avec les hommes, sont également nombreuses dans la Bible. Dieu s'adresse directement à l'homme qui, dans la religion révélée, n'a pas besoin d'intermédiaire pour comprendre le rêve. Le songe de Jacob, inspiré par la description biblique des anges sur une échelle, en ascension vers le ciel et le Seigneur, constitue un motif répété de l'époque médiévale, comme en témoigne le tableau de Nicolas Dire de l'école d'Avignon. Chagall, sensible au message biblique qu'il considère comme la plus grande source de poésie de tous les temps, interprète ce motif dans son grand cycle de la Genèse. Les ailes des anges se confondent sur sa toile avec celles des oiseaux et nous reconnaissons les éléments poétiques et esthétiques du panthéon russe et parisien. Le peintre joue avec bonheur une symphonie de couleurs primaires animée par les ombres claires et la sobre géométrie cubiste où messages bibliques et folklore, modernité et tradition, rêve et réalité se confondent. La puissance d'évocation de cette peinture onirique provient de l'impression pour le spectateur de participer aux visions de l'artiste et d'être soudain emporté n'importe où hors du monde. Titre de l'un des premiers tableaux et qui pourrait être celui de chacun d'eux. Dans la tradition picturale de la peinture de songe, la plupart des peintres choisissent cependant de ne pas décrire la prophétie. Ainsi, Giotto, dans le songe de Joachim, préfère représenter la figure de l'ange messager du divin comme Rembrandt ou Latour, dans le songe de Joseph comme Piero della Francesca, dans le songe de l'empereur Constantin. Cette belle scène nocturne, unique dans le travail du peintre, chante la nuit en grand silence, en majesté. Constantin dort, abandonné à la quiétude de l'instant, dans le triangle d'une tente qui occupe le centre de la toile. Largement ouverte, la tenture évoque le manteau protecteur de la Madone de la Miséricorde. La vision se presse dans la douceur de la lumière patinée de nuit par les nuances précieuses bleues, roses et ivoires. La vision se devine au bord des yeux voilés du jeune homme qui veille Constantin, un bras appuyé, la nuque noyée dans les plis de sa toge blanche. La vision s'incarne dans le vol de l'ange qui passe, un bras tendu désignant ce que l'œil du spectateur qui retient son souffle ne voit pas et qui sera soudain révélé à l'empereur, le signe de la victoire promise inscrit sur une croix blanche. Pierrot représente l'instant qui précède le présage, ce frémissement de l'invisible avant l'accomplissement de la vision, l'indicible et éphémère instant des prémices du songe. La lumière sacrée de la prophétie patine les plis des matières soyeuses comme des ailes et nimbe le réel aux lignes géométriques, triangles, droites et diagonales de la tente et des lances. À l'image du jeune garde qui veille, l'artiste est sur le seuil, à l'orée de l'inspiration, ici et là-bas. À l'époque contemporaine, répondant à la sollicitation éternelle des symboles et des mythes, Quirico reprend dans ses premières œuvres la tradition picturale des prophéties. À l'apparition de l'ange, il substitue cependant une image mentale, remplaçant ainsi par un symbole la narration des événements. Dans un théâtre personnel qui ressemble à un paysage intérieur, cette peinture d'oracle, saturée de signes, ne retient en effet des aspects extérieurs que ce qui soulève l'énigme ou permet de distinguer le présage. Le langage pictural de Quirico est rythmé par les archétypes qui structurent l'inconscient, mode d'expression plus primitif, plus coloré, plus imagé. Il entend faire fonctionner le rêve comme le mythe et parler l'originel langage des dieux pour donner les clés du destin. Pour qu'une œuvre d'art soit vraiment immortelle, dit-il, il faut qu'elle sorte complètement des limites de l'humain. Le bon sens et la logique y font défaut. De cette façon, elle s'approchera du rêve et de la mentalité enfantine. L'énigme de la fatalité, peinte en 1914, œuvre célèbre à juste titre, constitue sans doute le plus remarquable exemple de cette peinture métaphysique et divinatoire. Et vous me permettrez de m'y arrêter un instant. Notre regard est d'abord envoûté par la forme de la toile aux dimensions inhabituelles. C'est un triangle pointu, extrêmement étroit, d'une base de 95,5 cm et de 138 cm de hauteur, le fond ocre et rouge, baigné par une lumière onirique, accentuant encore l'impression d'étroitesse. Les formes arrondies des bâtiments à arcades semblent resserrées et aspirées par la ligne d'une cheminée de briques qui s'élève vers un ciel à peine visible. Impression accentuée par la contre-plongée, faussant la perspective. Une main gantée de rouge, mais aux ongles curieusement dessinés, apparaît sur la droite, verticalement posée sur un échiquier tronqué qui semble flotter dans la composition. Nous reconnaissons immédiatement la main à l'index pointé vers le bas de la peinture de présage. C'est celle de l'ange messager qui indique à Constantin son destin. Quirico ajoute deux autres signes à cet avertissement. L'échiquier, symbole des destinées humaines, humaine et la réminiscence d'un souvenir d'enfance grec rapporté par son frère. La main rouge rappelle l'enseigne de trois sœurs gantières que les deux jeunes garçons assimilaient dans leur imagination à trois sirènes inquiétantes et fatales. Le motif traditionnel de l'ange messager dans les peintures de songe est le plus souvent interprété par les peintres comme une figure de l'inspiration. Chagall figure sa muse sous les traits d'un ange bleu dans l'apparition et dans le rêve. Puvis de Chavannes représente la délivrance de l'esprit du dormeur par la visitation des trois muses ailées. Les peintres de l'école symboliste qui s'intéressent à l'exploration de l'inconscient avant Quirico et les surréalistes prolongent ainsi la conception des romantiques. Hugo décrit en effet l'inspiration artistique au terme voisin de la mystique. Elle n'est pas ce que dit le moi conscient, mais la part du rêve. Cette capacité onirique, révélateur poétique et don suprême, inhérente à l'artiste, favorise la communication avec l'infini. Hugo ajoute, pour que la muse se révèle au poète, il faut qu'il ait, en quelque sorte, dépouillé toute son existence matérielle dans le calme, dans le silence et dans le recueillement. Il faut qu'il se soit isolé de la vie extérieure pour jouir avec plénitude de cette vie intérieure qui développe en lui comme un être nouveau, et ce n'est que lorsque le monde physique a tout à fait disparu à ses yeux que le monde idéal peut lui être manifesté. Nous pouvons penser au songe du chevalier de Raphaël où le beau et le bien s'incarnent dans deux figures féminines parfaites. Nous pouvons évoquer l'azur dans l'œuvre de Chagall qui célèbre au-delà de toutes les expériences traumatisantes du siècle l'amour divin et humain. Pourtant, le mythe grec nous apprend aussi que le père de Morphée, Hypnos, a pour frère jumeau Thanatos. Comme l'illustre le tableau de Joachim Pattenir, le passage du Styx, le voyageur qui se risque à boire la nuit aux eaux du Styx peut se réveiller à la source du Léthé, mais aussi être retenu dans les enfers. Tout rêve est une lutte, et il faut que le songeur soit plus fort que le songe. Sinon la muse, comme pour Fuseli, se transforme en monstre. Comme vous le savez, le peintre décrit dans plusieurs versions la forme emblématique du cauchemar en mettant en scène l'apparition spectrale d'une tête de cheval, symbole prémonitoire d'une mort prochaine, selon les anciennes légendes germaniques. Cette vision d'horreur qui s'impose à la silhouette féminine au centre du tableau en brise littéralement les lignes blanches. Les visions crépusculaires de Böcklin, les sanglantes apothéoses de Gustave Moreau, les métamorphoses fantastiques de William Blake expriment le même effroi. Ainsi se lèvent, dans le crépuscule romantique, les taupes sauvages et les loups que la raison du jour tenait enchaînés. C'est la chauve-souris à l'aquarelle et à l'encre noire de Goya, conservée au Musée des Beaux-Arts de Besançon et exposée au Grand Palais en 2006. Dans la belle exposition de Jean Clair, c'est l'araignée de Redon comme une fleur de marécage, tête phosphorescente, balançant sur sa tige, ce sera, résumant tous ces monstres, l'ange du foyer de Max Ernst. Goya, dans ses peintures noires, va au-delà. Il peint la dévoration de Saturne et la dévastation de l'Espagne. Il peint les parcs et le sabbat des sorcières. Il peint la nuit, nos ténèbres et nos souffrances. Le peintre de la Maison du Sourd représente, nous dit Baudelaire, toute la hideur, toutes les saletés morales, tous les vices que l'esprit humain peut concevoir. Et lorsque nous parcourons au musée du Prado l'ensemble des 14 peintures noires, nous éprouvons en effet une forte impression d'irréalité devant ces compositions inhabituelles et inquiétantes aux figures décentrées et aux têtes coupées au bord du cadre. Une œuvre entre toutes est remarquable, peinte entre 1820 et 1823. elle porte un titre simple, un chien. Animal que l'on observe en effet et dont on ne distingue que la tête noire du profil, animée de quelques touches blanches, qui sculpte le sommet du crâne, le contour d'une oreille et le cerne de l'œil. Cette tête appuyée sur une planche courbe, barque de caron ou rambarde d'arène, constitue l'unique et minuscule sujet de la toile. Elle figure entre deux grandes surfaces peintes, d'inégale grandeur. Le reste du tableau, comme le dit François Aubral, est vide, ou plutôt plein, de peinture, d'une matière épaisse, composée d'ocre brun, d'ocre jaune strié de noir et rehaussé de blanc. Eau, sable, ciel, abîme, vide onirique, suggère Guido Cerronetti. Secret de peintre, propose Agnès Arras. Si certains critiques ont pu voir une tête de Cerbère, l'image désolée de la condition humaine et la prémonition du destin et de la mort, reste que cette œuvre, proche dans sa manière et dans sa gamme chromatique des autres fresques de la Maison du Sourd, ne propose en effet aucune description référentielle précise. En s'éloignant des scènes des peintures noires, Goya peint l'indicible. La peinture figurative est, comme nous l'avons vu, l'art qui correspond exactement à l'espace du rêve. Les pensées élaborées en songe se traduisent en effet en images et les peintres font prendre forme à leur vision grâce à la métamorphose et aux symboles. Le rêve déposé dans le tableau peint est d'abord une fable avec un sujet et des événements, un récit pictural mis en scène avec netteté. Goya pressent pourtant que ce n'est pas si simple. Les rêves peints deviennent, en effet, des objets tangibles que l'on peut voir, décrire, analyser. Ce sont des visions fixées, tandis que les images ailées du rêve sont nécessairement évanescentes et fragiles, insaisissables, changeantes et discontinues. Comme le souligne Bachelard, le rêve échappe à l'image plane. Il est un univers en émanation. Les images trouvées par les hommes, dit-il, évoluent lentement, difficilement, et beaucoup s'évanouissent aussitôt parce qu'elles sont de simples jeux formels. Pour que la rêverie se poursuive, il faut qu'elle trouve sa matière. Le rêve, alors, prend substance et trouve sa couleur fondamentale, conclut-il. Goya a cette intuition, peindre, c'est se saisir de l'étoffe dont les rêves sont faits. Qui vient que les mots portent les mouvements lyriques de l'âme, les ondulations de la rêverie, les soubresauts de la conscience. Nous savons que pour Léonard de Vinci, déjà, la peinture est cosa mentale, comme en atteste l'existence du fameux mur contemplé par le peintre pour nourrir son imagination. Porté par les aspects fortuits et confus de la matière, le génie s'éveille à de nouvelles inventions, explique-t-il. Certaines techniques picturales permettent également de soutenir l'état onirique. Vasari indique que le sfumato, qui fait hésiter entre le vu et le non-vu, évite à l'œil de s'enfermer dans une représentation unique. De même, la couleur, travaillée par la lumière et détachée de la servitude du motif, est une sorte d'accès vers l'invisible. Delacroix, qui peint admirablement les plis du lit, des faits ne s'y trompe pas, qui écrit dans son journal le 8 octobre 1822 « La touche est un moyen comme un autre de contribuer à rendre la pensée dans la peinture. » Qu'il nous suffise pour illustrer ces propos d'évoquer les paysages de Corot qui ne copie jamais la nature mais y songe et la reproduit telle qu'il la voit dans ses rêveries. Et les paysages infinis, baignés d'eau ou de crépuscule, de Gaspard Friedrich, où la nature, loin d'être traitée comme un réservoir de formes allégoriques, exprime ce que le peintre voit en lui-même. Brume ou la grande réserve accorde l'âme à une réalité plus grande, un rêve mystique, un tout cosmique et divin. De même, sans exclure une certaine vérité de la représentation, attestée par les titres des tableaux, les études de nuages de Constable ou de Whistler, les marines de Turner ou les compositions aux nymphéas de Monet, offrent des surfaces de teintes et de nuances presque vides de motifs qui exaltent la subjectivité et soutiennent la méditation. Alors, comme le dit Starobinsky, le tableau ne porte pas la trace d'un rêve, mais il nous fait rêver, nous entrons en rêverie. Le rêve du spectateur naît et se nourrit de la contemplation de l'œuvre. C'est au-delà des choses, selon le mot d'Odilon Redon, et la grande aventure de la peinture du XXe siècle qui a cherché à révéler ce qui se cache derrière le réel. Le lointain transformé en motif au XIXe siècle est devenu l'azur. Couleurs et lumières, visibles et invisibles, finies et infinies, le bleu du ciel n'est plus une matière, mais une distance et un songe. Nous savons que Kandinsky, bouleversé par les découvertes de la physique moderne, juge désormais le monde visible comme un univers incertain, sans forme ni substance. Il s'en détourne pour saisir dans ses tableaux la musique des sphères, une expression spirituelle du cosmos, et dans ses improvisations de 1911, il atteint une liberté et une légèreté communicative. Tout a une âme secrète, nous dit son magnifique bleu du ciel de 1940, constellé de figures étranges et coloré où fusionnent harmonieusement les trois règnes. Patience dans l'azur, chaque atome de silence est la promesse d'un fruit mûr, dit le poète. Et Miro opte résolument pour les peintures de rêve, cherchant à passer à travers le miroir du songe pour en ravir le mouvement furtif. Dans la sieste, peinture monochrome, allègre et éthérée, l'esprit du rêveur paraît suggéré par un cercle en pointillé d'éléments qui semblent flotter sans ordre ni logique, dans un bleu onirique. Nous distinguons sans doute un fantôme blanc ou peut-être un cerf-volant, une inscription sibylline, un fragment de parapluie. Miro reproduit ainsi le niveau d'incertitude de nos rêves et nous ne pouvons ordonner ou décrire avec précision ce que nous voyons. C'est qu'il ne s'agit plus de reproduire une vision, mais de rendre visible ce qui a été mystérieusement et fugitivement perçu en rêve. Le grand peintre surréaliste Tanguy choisit quant à lui de fixer cette apparition onirique en utilisant les mêmes procédés que ceux de l'écriture automatique. Un fond observé avec intensité pendant plusieurs jours constitue la matière qui soutiendra sa rêverie et fera surgir une vision. Ainsi, paysage aux nuages rouges présente un univers constitué de deux zones clairement délimitées, ciel et surface terrestre. Mais notre œil hésite entre la terre et la mer. Tanguy obtient ce résultat au moyen d'un fond extrêmement fluide, recouvert d'une couche brune, unie, sur laquelle il trace avec une lame très fine des traits qui rappellent les sillons du labour ou les ondulations de l'eau. C'est cet élément indécis où fusionnent terre et eau qui lui permet, au moyen d'une intense concentration, de faire naître une germination étrange de formes oniriques. Tanguy décrit ensuite ces formes avec une minutie extrême et précise leurs contours au moyen des ombres portées. Ces êtres-objets, imaginaires, pour reprendre la formule d'André Breton, acquièrent grâce à la peinture une exactitude et une matérialité extrême. Dans les grandes œuvres américaines des années 40, la présence de ces formes oniriques, aux couleurs plus affirmées, est inquiétante et tangible. Qu'il me suffise d'évoquer les figures verticales, aiguës et glacées, qui s'élèvent au premier plan. Des mains pâles aux cieux lacés, flèches de cathédrales ou totems indiens, elles se tendent vers un ciel aux couleurs froides qui semblent vides et saturés, muets et sublimes à la fois. Dans ce bleu du ciel, Las et pâle éclos, un rêve et cette fusion de l'être, rêvant dans un univers bleu et doux, infini et sans forme, au minimum de la substance, favorise l'imperceptible passage du réel à l'imaginaire. Qu'il s'agisse de représenter un rêve ou d'en capter les mouvements secrets, nous le voyons, la peinture est en accord plus que tout autre art avec le territoire onirique. Alors que les mots nomment le réel, le geste du peintre n'a pas besoin d'un signe antérieur et le rythme et la couleur semblent avoir accès à une profondeur de la conscience que le verbe ne peut atteindre. C'est en tout cas ce que confie Gauguin dans une lettre à Daniel de Monfrède. Où commence l'exécution d'un tableau? Où finit-elle? Au moment où des sentiments extrêmes sont en fusion au plus profond de l'être, au moment où ils éclatent et que toute la pensée sort comme la lave d'un volcan. N'y a-t-il pas là une éclosion de l'œuvre soudainement créée, brutale si l'on veut, mais grande et d'apparence surhumaine? Zhao Wuqi confirme que chaque toile est un morceau de cet espace du rêve. J'ai plaisir à clore ce propos sur l'évocation de l'œuvre de ce grand peintre, membre de notre académie. Lyrique et abstraite, imaginaire et tangible, chacune de ces toiles est le lieu où l'intelligible devient sensible. Les nuances et les lignes précises que l'on devine sous les tonalités presque monochromes de la matière peinte font se lever le souffle des nuages. Et vent ou traversée des apparences sont des espaces intimes et pourtant partageables. Si cette œuvre singulière et universelle et nous parle de nous, c'est que nous, dit François Scheng, chaque toile de Zhao Wuqi est une sorte de sismographe qui enregistre fidèlement l'effet majeur de sa vie, ses pulsions secrètes, ses joies et ses peines, ses révoltes et son désir de paix. Le peintre invente une terre à la mesure de ses rêves, et en géomancien visionnaire, pour nous, il capte et épouse les poussées telluriques, parfois secourues de panique, les pulsations du cosmos, le frémissement de l'invisible sous le visible. Selon la théorie des couleurs de Goethe, le noir qui s'éclaircit devient bleu. Au moment où le monde réel plonge dans le désastre, en 1914, Matisse crée porte-fenêtre à Collioure et peint un fond noir au centre de sa toile. Zhao Wuqi considère cette œuvre comme la plus importante du XXe siècle, précisément parce que ce noir nous entraîne vers l'azur et vers l'infini. Porte-fenêtre, dit-il, est une peinture magique, car devant cette porte, vide et pleine en même temps, il y a la vie, la poussière, l'air que l'on respire, mais derrière, que se passe-t-il? C'est un espoir noir immense. Pour nous tous, c'est une porte ouverte sur la vraie peinture. Cette échappée sur un espace intime qui ne se voit pas, âme ou inconscient, peu importe comment on le nomme, fiance le rêve au rêve et exalte la méditation, l'inspiration et la création de l'artiste. Dans l'hommage à Matisse, Zhao Wuqi célèbre un réel chaotique qui n'est pas encore organisé en monde, une matière qui soutient la rêverie et accorde l'intimité de l'artiste à l'univers et l'homme aux éléments. Et à notre tour, par la contemplation de cette œuvre, nous entrons en rêverie. Je vous remercie.
Cette séance va bientôt s'achever. Comme il est d'usage sous cette coupole, nous allons avoir le plaisir d'écouter la fanfare de l'apéritif de Paul Ducasse. Thank you.
Canal Academy vient de vous proposer d'écouter des extraits de la séance solennelle qui s'est déroulée sous la coupole de l'Institut de France le 17 novembre 2010. C'était la séance publique annuelle de l'Académie des Beaux-Arts.